Bonjour auditeurs de Fat Jet, c'est la propédeutique avec grand large pour ce dimanche. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un projet, d'une émission, pardon, un sujet très très spécial qui sont les expériences de mort imminente. Et donc nous sommes deux propédeutiques, moi Jean et Sébastien. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Sébastien, est-ce que tu pourrais nous parler qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente ?
Alors, qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente ? La définition de ce qu'est une expérience de mort imminente se tient dans l'état d'une personne qui, à partir de sa mort clinique, perçoit un univers qui est hors norme. Dans bien souvent des cas, cet univers est caractérisé par une certaine lumière blanche, et ce, après l'arrêt total de l'activité du cortex cérébral. Il s'agit donc d'un phénomène qui s'effectue après une vie à proprement dit terrestre. Alors, pour le docteur Patrick Tellier, qui est donc le médecin de Lourdes, c'est à la frontière de la mort que s'effectue cette expérience de mort imminente. Il semble que cette mort semble être merveilleuse dans la majorité des cas. En tout cas, le retour à la vie terrestre des individus ayant été sujets à cette expérience change radicalement leur façon de voir le monde. Même dans certains cas, leur comportement de vie à l'égard de leur personne et à l'égard des autres, de leur prochain, on pourrait dire qu'il s'agit de la lumière du changement radical de soi, qui semble être une lumière radicale, mais paisible avant tout pour les personnes sujettes à cette expérience.
D'accord. Et est-ce que tu pourrais nous donner un témoignage d'une personne qui aurait vécu une EMI, une expérience de mort imminente ?
Oui. Alors, une personne qui a été sujet à cette expérience de mort imminente, c'est Nicolas Kavinek, raconte qu'elle s'est retrouvée dans une espèce de prairie avec une herbe très verte et explique que des êtres de lumière sont venus à sa rencontre. C'était des êtres blancs, ils avaient une forme d'apparence humaine, mais en même temps, ils n'avaient pas vraiment de visage, de bras et de jambes. Il dit « J'ai senti un amour extraordinaire. » Ce n'est pas évident de parler de ce niveau d'amour, c'est plutôt comme une vibration d'amour. Ces êtres étaient animés d'une grande joie. Leur rire emplissait tout l'espace. C'était comme des retrouvailles.
D'accord, ben, et c'est quand même une expérience assez surnaturelle, mais tu connais notre monde, nous aimons être concrets. Est-ce que c'est une chose courante, les EMI, et est-ce que tu as des chiffres ?
Alors les chiffres, oui, j'ai des chiffres, et d'ailleurs les chiffres sont très importants. Ça concerne beaucoup de personnes. Par exemple, en France, c'est 2,5 millions de personnes qui sont sujets à ce genre d'expérience, et aux États-Unis, c'est 15 millions. Donc, c'est...
D'accord. Et les États-Unis, c'est eux, je pense au livre du docteur Moody dans les années 70 qui a commencé à ouvrir la voie. Et comme c'est un sujet particulièrement sujet à controverse, nous parlons du docteur Moody aux États-Unis qui a ouvert la voie. Mais nous avons aussi comme intervenant le docteur Charbonnier qui est un des grands spécialistes médicaux de la question en France, auteur de nombreux ouvrages dont je vous conseille, qui sont très facilement accessibles. Et donc nous allons échanger avec le docteur Charbonnier. Donc, nous vous appelons pour cette émission spéciale « Expérience de mort imminente ». Vous êtes médecin anesthésiste dans les Pyrénées. Vous êtes aussi écrivain et conférencier et grand spécialiste de cette question qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, nous avons trois questions. Et la première, du domaine médical, qu'est-ce que la mort ?
Cette définition de la mort est sujette à polémique parce que en fait, la mort correspond à nos limites de possibilités de réanimation. Il y a quelques siècles, c'était simplement quelqu'un qui ne bougeait plus, qui était considéré comme mort. Ensuite, ça a été l'arrêt de la respiration. On mettait un petit miroir ou une vitre devant la bouche des personnes susceptibles d'être décédées. Et puis, s'il n'y avait pas de buée, eh ben, on considérait qu'elles étaient mortes. Ensuite, ça a été l'arrêt cardiaque, il n'y a pas si longtemps. Quand le cœur s'arrêtait, eh ben, on considérait que la personne était décédée. J'ai encore vu un film avec Humphrey Bogart sur les quais de Seine, et récemment, en noir et blanc, une rediffusion, et on voyait Humphrey Bogart qui se penchait sur quelqu'un qui était allongé, qui avait reçu une balle, il se penche, il écoute le cœur et il est mort. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, bon, on pratique des réanimations, on fait des massages cardiaques, il y a des défibrillateurs automatiques pour refaire partir les cœurs. Donc l'arrêt cardiaque, ce n'est plus la définition de la mort. Mmh. Aujourd'hui, la définition de la mort, c'est l'arrêt du fonctionnement cérébral qui est attesté par un appareil qui s'appelle l'électroencéphalogramme. Et entre-temps, il y a un autre état intermédiaire qui s'appelle la mort clinique. Là, on a l'électroencéphalogramme plat et ça peut être réversible. On sait aujourd'hui que dans les 15 secondes qui suivent l'arrêt cardiaque, on a un électroencéphalogramme plat, donc on a une mort clinique. Donc on peut dire aujourd'hui, sans se tromper, que toutes les personnes qui sont revenues d'un arrêt cardiaque sont bien revenues de la mort clinique. Et dans un certain nombre de cas, elles nous racontent ces fameuses expériences dont vous parliez en introduction, les expériences de mort provisoire. Je les appelle plus expériences de mort imminente parce que le terme est faux. Ce n'est pas une mort imminente, c'est une mort clinique qui est déclarée. Donc c'est une mort clinique, une mort provisoire.
D'accord. Et en plus, je suppose qu'avec les moyens modernes, on peut dire que les expériences de mort imminente, enfin, suivant le terme, se multiplient puisqu'on a des moyens beaucoup plus performants. Voilà. Donc, on a plus en plus de récits, on fait beaucoup plus attention aux récits aussi.
Exactement, on a de plus en plus de récits parce que, d'une part, comme vous l'avez dit, il y a les progrès de la réanimation qui fait qu'on récupère de plus en plus de morts cliniques. Et puis, il y a un discours qui se démarginalise du fait de l'abondance des discours, justement. Les médias en parlent de plus en plus. Les gens osent de plus en plus dire ce qu'ils ont vécu pendant leurs arrêts cardiaques. Mmh. Et il y a un certain nombre de... En gros, c'est entre 15 et 18% des patients qui ont présenté un arrêt cardiaque qui ont vécu cette fameuse expérience qui est vécue.
D'accord. Donc, ce qui est quand même relativement important.
Je me suis formé à l'hypnose telle qu'on la pratique en anesthésie. En anesthésie, on bloque la conscience analytique pour éviter la douleur, la perception de la douleur. Parce que la conscience analytique est reliée à nos cinq sens et on bloque tous ces expériences sensorielles par l'hypnose pour que le patient puisse être opéré sans drogue anesthésique. Et donc, je me suis dit, si ma théorie est bonne, si j'arrive à bloquer la conscience analytique par l'hypnose, je vais pouvoir suggérer un voyage tel qu'il est décrit dans les expériences de mort provisoire. Donc très facile de pratiquer ce genre d'hypnose, hein, puisque maintenant c'est une méthode qui a fait ses preuves, une technique qui a fait ses preuves. Et je les amène dans un voyage donc qui est non pas comme en anesthésie, le voyage que l'on utilise en se servant des affinités du patient, quelle est l'activité qu'il fait, qu'il aime bien faire, quel est le pays qu'il aime bien visiter. Et là, on l'amène dans un voyage pour le déconnecter. Donc là, j'amène les participants dans un voyage type expérience de mort provisoire avec la sortie de corps, le passage dans le tunnel, la lumière, il y a tout ce récit. La séance dure 40 minutes et au retour, je leur fais remplir un questionnaire très simple, anonyme, donc ils peuvent tout à fait s'exprimer librement, avec des items, différents items, oui, non. Et j'ai eu la surprise, alors la grosse surprise de ce questionnaire, c'est d'apprendre que 65% des participants pensent avoir été en contact avec un défunt. Donc ça a été la grosse surprise.
Donc là, on est vraiment dans ce domaine en plus qui nous intéresse dans cette émission, c'est qu'on est dans l'espérance. Donc nous, en tant que propédeutes et futurs prêtres, on est vraiment dans cette espérance du royaume. Et je voudrais justement rebondir avec vous sur ce point de contact, j'ai envie de dire, d'un positivisme extraordinaire. Si vous pouviez, si vous aviez un message à donner à nos auditeurs qui sont relativement jeunes, généralement entre 15 et 30 ans, un peu plus, un peu moins, je l'espère aussi. Donc, est-ce que vous auriez, en tant que médecin, et ça c'est très important pour nous, quelque chose à transmettre dans cette France qui est un peu difficile en ce moment? À nos auditeurs.
Bah oui, je crois que, en fait, mes plus grands professeurs, ça n'a pas été en médecine des professeurs d'université, ça a été les gens qui ont connu l'au-delà, qui ont fait ces incursions dans l'au-delà et qui nous disent exactement ce qu'il faut faire sur cette planète pour être heureux. C'est pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes en sous-titre, mais je crois d'abord aux enfants, parce que je pense que dans les sociétés occidentales matérialistes telles qu'elles sont actuellement, on fabrique des générations de frustrés. On leur donne des faux objectifs. On leur dit, si tu veux être heureux plus tard, il faut bien travailler à l'école, il faut être le premier partout, il faut passer devant les autres, il faut que tu gagnes beaucoup d'argent, comme ça tu pourras t'acheter tout ce que tu veux et tu seras heureux. Et bien sûr, on n'est jamais le premier et on n'a jamais autant de biens matériels pour être heureux, donc on fait des générations de frustrés qui trouvent ensuite des fausses pistes et des fausses solutions. Donc, il faut écouter les expérienceurs. Les expérienceurs nous disent, quand ils sont revenus de l'au-delà, ils nous disent que quand ils ont été devant l'être de lumière, on leur a pas demandé combien ils avaient sur leur compte en banque, combien ils avaient de voitures, combien de personnes ils avaient dirigées dans leur vie. On leur a posé une question simple, comment as-tu aimé les autres ? Et je pense que c'est effectivement ce qu'il faut expliquer à nos enfants, que si vraiment ils veulent être heureux plus tard, il faut savoir aimer les autres. Il n'y a que l'amour qui est important. L'amour tel qu'il est présenté à la télévision ou dans les médias, c'est pas du tout celui-là. C'est l'amour du prochain, c'est savoir aimer les autres, donner à l'autre. C'est la seule façon d'être heureux sur cette planète. Je crois que c'est le message essentiel à donner aux enfants et aux générations qui arrivent.
D'accord. Et puis aussi, aimer les autres et s'aimer soi-même, je pense aussi c'est important de pas penser aussi au suicide qui permettrait peut-être d'atteindre ces béatitudes.
Voilà, ça aussi, il faut leur dire, parce que les gens qui sont passés de l'autre côté savent très bien que c'est pas la bonne solution, que quand on a connu... Alors on pourrait se dire, effectivement, si on a un raisonnement simpliste, c'est tellement merveilleux de l'autre côté qu'on va y retourner. Ben pas du tout. Ils ont compris que de toute façon, ils iraient un jour, mais qu'il faut...
Chaque chose en son temps.
Voilà, il faut se comporter de façon différente sur cette planète. Si on revient, c'est parce qu'on a quelque chose à faire. On a de l'amour à donner aux autres. On a des choses à apporter aux autres. On a un message à apporter. Et on n'a pas du tout envie d'y revenir tout de suite. Au contraire, c'est la mauvaise solution. Abandonner son véhicule terrestre pour partir. J'ai une diapo comme ça, où, quand je fais la conférence « La mort expliquée aux enfants », où il y a un monsieur qui sort de sa voiture très en colère. Je lui dis « Ben voilà, suicidé, c'est ça ». C'est un monsieur qui sort de sa voiture très en colère. Il pense que le problème vient de sa voiture qui marche mal ou du chemin qui est trop difficile. Il abandonne tout. Mais il va devoir continuer quand même son chemin à pied ou de toute façon, il n'a rien solutionné du tout. Et je dis aussi aux enfants, c'est pas parce que tu suis un monsieur qui est devant toi ou même si c'est ton papa ou ta maman et qu'il a décidé de sortir, tu n'y es pour rien. Il faut arrêter de culpabiliser aussi les enfants parce que c'est face au suicide, c'est ça. On se dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que... mon proche ait eu envie à un moment donné de se suicider. Ben, il faut déresponsabiliser l'entourage, dire que bon, c'est un choix personnel, c'est un mauvais choix, mais un choix personnel. Voilà. Donc tout ça, tous ces messages, il faut savoir les donner aux enfants, il faut savoir parler de la mort aux enfants, il ne faut pas avoir peur de parler de la mort, c'est un sujet essentiel. Quand on est enfant, c'est la question numéro un qu'on se pose. Moi, j'ai embêté tout le monde quand j'avais 7 ans, parce que je voulais savoir
qu'est-ce qui
se passait après la mort, et on m'envoyait bouler.
Une question vieille comme le monde, je pense.
Ben oui, mais on voit bien que les adultes sont coincés. Ouais, c'est et on se demande quand on est enfant pourquoi les adultes ont si peur de la mort, quoi. Donc il faut savoir leur donner des solutions, leur dire qu'il y a des gens qui ont connu la mort clinique, qui sont allés dans l'au-delà, qui ont vu l'être de lumière et qu'on leur a dit, qu'as-tu fait de ta vie, qu'as-tu fait pour les autres? Voilà, c'est cette question-là qu'il faut qui soit résolue,
qui ressorte
sur cette planète.
Et qu'on peut transmettre à nos éditeurs. En tout cas, docteur Jean-Jacques Charbonnier, merci beaucoup de votre intervention.
Merci à vous.
Et
Merci à vous.
puis, à très bientôt. Et n'oubliez pas aussi que le docteur Charbonnier est un grand écrivain, comme le père Brune que nous aurons tout à l'heure. Et n'hésitez pas à découvrir plus d'informations sur ces expériences extraordinaires et qui donnent une joie de vivre. Merci beaucoup, docteur.
Merci à vous.
Au
À
revoir.
bientôt. Au revoir.
Oui, donc nous voilà sur l'émission Grand Large après l'intervention du docteur Charbonnier. Sébastien, est-ce que tu pourrais nous faire un commentaire?
Donc, ce sont des êtres de lumière céleste que les personnes ont pu rencontrer. Alors, ces êtres de lumière sont généralement différentes selon les cultures. Et bien souvent, par exemple, on retrouve Jésus, des personnes auxquelles ils ont pu avoir une rencontre au cours de leur vie terrestre.
D'accord. Ça me fait penser, là, je voudrais soulever un article de l'Est Républicain qui date de cette année, avec un article sur le maire Jean-Paul Mariotte, qui est le maire de Port-sur-Saône, à côté de Vesoul, en Haute-Saône, et qui se dit athée, et qui, suite à un accident, a vécu une expérience de mort imminente, et je cite, je ne sais pas du tout combien de temps ça a duré, raconte Jean-Paul Mariotte. Outre la lumière blanche, il garde en mémoire la sensation d'une chaleur enveloppante, comme quand le soleil tape et que tu le ressens sur toi. Il se souvient aussi que ses parents lui sont apparus comme s'ils avaient 50 ou 60 ans, alors qu'ils sont morts autour de 85 ans, et il y a une dizaine d'années. Donc voilà un témoignage d'un journal que nous connaissons bien sur ces fameux êtres de lumière, les expériences de mort imminente. Et c'est l'occasion pour moi d'introduire notre deuxième invité, le père François Brune, qui est prêtre, c'est un célèbre écrivain, théologien, le grand spécialiste des expériences de mort imminente, de l'au-delà et des communications avec l'au-delà aussi, et auteur aussi, comme le docteur Charbonnier, ils se connaissent, de nombreux ouvrages. Donc vous verrez, je suis un peu familier avec le docteur Brune, parce que j'ai la chance de très très bien le connaître, et c'est une personne qui m'apporte beaucoup dans ma foi, dans ma vie, dans ma spiritualité. Donc nous allons contacter par téléphone, il habite Paris, le père François Brune. Bonjour père Brune.
Bonjour.
Alors, nous avons trois questions à te poser pour notre émission sur Fadjet, sur les expériences de mort imminente. Donc, la première, comment es-tu arrivé à t'interroger, à enquêter sur les expériences de mort imminente, maintenant depuis de très nombreuses années?
Eh bien, en tant que prêtre, je remarquais que la plupart de mes confrères ne croyaient plus à une survie immédiate après la mort. Ils avaient à peu près tous accepté une théorie qui nous venait du protestantisme, qui consistait à dire quand le bonhomme est détruit, même son cerveau, il ne reste plus rien de lui, si ce n'est dans la pensée de Dieu. Alors tu comprends bien que j'ai le plus grand respect pour la pensée de Dieu, mais c'est quand même pas très consistant. Et qu'est-ce qui pouvait me garantir que les choses se passeraient comme il le disait, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, Dieu nous ressusciterait, mais tout entier, corps et âme, mais pas une âme qui survivrait errante sans son corps mutilé. Alors, dans le même temps, je découvrais ces expériences de mort imminente, ou plutôt même souvent de mort provisoire, on peut le dire. Jean-Jacques Charbonnier est d'accord avec cette expression-là, moi aussi, oui. Il s'agit vraiment d'une mort provisoire.
D'accord. Et qu'est-ce
et
qu'on...
Je découvrais là pratiquement des indices, et je dirais même des preuves de la survie. Raymond Moody a longtemps refusé d'employer le mot de preuve. Il a fini par le faire avec le dernier témoignage.
D'accord, oui, on en parlait tout à l'heure à l'antenne
voilà,
du docteur Moody qui a un peu ouvert la voie. Et est-ce que tu pourrais nous dire...
Étudier tout ça.
D'accord. Est-ce que tu pourrais nous dire... Donc, on a déjà des témoignages, mais on voudrait le tien, sur qu'est-ce qu'on vit durant une expérience de mort imminente.
Ce que j'ai retenu, c'est que lorsque on est amené à revoir sa vie, l'être de lumière ne vous fait aucune engueulade, aucun reproche. Même lorsqu'on revoit un certain nombre d'actions que l'on a commises et qui sont pas très heureuses, il reprend les choses en essayant de dire « oui, mais ça t'a permis de mieux comprendre, etc. Ça t'a aidé à évoluer après. » Jamais d'engueulade. Ne vient de l'être de lumière que de l'amour. c'est la seule expérience que l'on fasse. Un amour indestructible, inconditionnel, infini, dont on n'a absolument pas idée sur Terre. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on n'a pas à s'inquiéter un petit peu et faire n'importe quoi pendant notre vie sur Terre. Pas du tout. Parce que le paradis, ça n'est pas un Disneyland. Le paradis, c'est de participer à l'amour de Dieu, d'entrer dans cet amour. Et si on n'a pas appris à aimer comme il nous aime, ce ne sera pas pour nous le paradis, mais l'enfer. Donc, c'est ça l'essentiel. C'est le message essentiel. Que Dieu, l'être de lumière, appelez-le comme vous voulez, n'est qu'amour. Il n'y a rien d'autre en lui. On est beaucoup plus riche, nous, on a tant d'autres possibilités. Lui, il est un peu infirme. Il ne sait qu'aimer. Nous, on peut détester, haïr, jalouser, envier, mépriser aussi, très bien mépriser. On sait très bien faire. Jamais Dieu ne nous méprise. Il ne fait que nous aimer. Il n'a pas d'autre moyen, il ne sait faire que ça. Voilà ce que l'on peut dire d'essentiel.
Mais écoute, on écoute avec attention dans le studio tes paroles qui nous bouleversent. Comme dans toute radio, il y a un silence, mais je pense que là, ça, tes paroles, comme tu sais les dire, c'est pour ça que je viens régulièrement te voir, nous marquent beaucoup. Est-ce que, pour terminer en une minute, tu as déjà beaucoup dit, mais étant donné que Fadjet est une émission très jeune, est-ce que tu aurais un message à transmettre à cette génération dans un monde difficile aujourd'hui, une Europe difficile ?
On a tous envie d'être aimés, mais il faut apprendre aussi à trouver son bonheur dans le fait d'aimer les autres, même quelquefois sans retour. Aimer, c'est déjà une source de joie extraordinaire. Donner de l'amour autour de soi, même si on n'est pas récompensé par un amour en retour, apprendre cette joie à aimer les autres. Les aimer seulement, pas seulement du cœur, mais concrètement aussi. Voilà.
Eh bien, écoute, merci beaucoup de ton intervention. Et à très bientôt.
Et, merci à toi.
Au revoir, Père.
Et merci à vous tous. Au revoir.
Au revoir. Nous venons d'avoir un très beau témoignage sur Fadjet. Je ne sais pas ce que tu en penses, Sébastien. Est-ce que tu pourrais un peu conclure sur ces interventions et sur cette émission qui s'achève ?
Alors, ces expériences de mort imminente sont des nouveaux moyens divins pour faire connaître Dieu auprès d'une population qui est déconnectée de Dieu. Donc, il s'agit d'un moyen, on pourrait dire, entre guillemets, moderne de se faire connaître à travers des témoignages. Alors, des témoignages que les personnes expriment pour véritablement verbaliser ce qu'ils ont pu connaître, parce que c'est des expériences très fortes qui bouleversent leur vie. Voilà.
Et je sais aussi, en témoignage, les personnes qui parlent de ces expériences de mort imminente se mettent dans un état comme s'ils revivaient ces expériences et qu'ils ont à nouveau ce sentiment de béatitude qui les anime et cette grâce. Et nous rappelons aussi que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas sujet à la croyance, puisque même les gens qui n'ont pas de conception de la vie dans l'au-delà vivent ces expériences. Donc l'émission Fadjet sur les expériences de mer éminente de Grand Large avec la propédeutique de Nancy s'achève. Nous vous invitons à réagir sur la page Facebook sur ce sujet et si vous avez des questions, des interrogations, des désirs d'avoir des références de livres sur ces sujets du docteur Charbonnier, du père Brune ou d'autres que nous avons étudiés pour préparer cette émission, n'hésitez pas, surtout en ce jour de fin d'année assez merveilleux. Donc n'hésitez pas à intervenir sur les expériences de mort imminente et nous aurons plaisir à vous répondre. Grand Large, c'est une fois par mois, et en janvier, ça sera Alexandre qui vous parlera du domaine du fantastique, avec de la science-fiction, de l'heroic fantasy, et tout ce monde que nous adorons, Narnia, le Seigneur des Anneaux. Donc nous serons toujours dans l'expérience du merveilleux. Merci beaucoup de votre écoute, et à très bientôt sur FaitJet. Au revoir.